De retour sur la radio éphémère, bonjour, nous sommes avec Sophia Charaille et Mathias Duplessis.
Bonjour.
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 Alors, bienvenue dans la radio éphémère du festival. Nous, on campe dans des salles de classe et on retransmet le festival jusque dimanche soir. Et moi, je tenais à vous avoir dans les studios, Sophia et Mathias, puisque déjà, j'ai vu votre prestation, j'ai écouté l'album. Je voulais vous avoir tous les deux, parce que Mathias a énormément travaillé sur cet album. Vous signez tous les arrangements, vous êtes tous les deux compositeurs de cet album. Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur votre carrière, Sophia? L'histoire, votre histoire du Maroc jusque Paris, ça commence comment?
Alors, ça commence à 17 ans. Je pars faire mes études à Paris, a priori d'architecture. Je très vite fais une petite bifurcation vers le théâtre. Le chant, ça arrive un peu plus tard, mais je fais du théâtre, je fais des choses comme ça, je fais de la photographie. Et puis très vite, c'est un petit peu une évidence que j'ai envie de chanter. Et donc, je me mets à travailler avec des auteurs-compositeurs au départ français. Je chante dans les clubs de jazz, des standards de jazz, jusqu'au moment où je rencontre Mathias. Et là, on décide de partir sur plutôt les musiques du monde parce que il me dit « Oui, mais c'est dommage quand même, tu pourrais chanter en arabe, ça serait chouette. »
C'était pas le cas au départ?
Non, au début, je travaillais vraiment avec des auteurs-compositeurs français. Et un peu dans le style de Arthur Ashe, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, on s'est dit bah oui, c'est vrai que ce serait bien de faire les deux, quoi, de marier, de faire plus de mariages, parce que comme on est tous les deux très amoureux des autres cultures du monde, on s'est dit c'est dommage de s'en priver. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Alors Mathias, les musiques du monde, vous êtes multi-instrumentiste, si j'ai bien regardé.
Oui.
Et alors, comment ça marche, un multi-instrumentiste? On prend un instrument, on se dit, tiens, je vais faire un coup d'accordéon, un coup de violon, un coup de piano.
Ça marche par amour de la vie. Parce que bon, moi, j'étais guitariste, j'ai commencé tout petit, à 5-6 ans. Et puis, au bout d'un moment, moi qui aime tellement rencontrer des gens différents, qui pensent différemment, qui s'habillent différemment, eh bien, au bout d'un moment, la guitare me paraît... être un vocabulaire tu vois, donc je connais, que j'ai envie de faire autre chose. Donc je prends un autre instrument. En général, j'ai commencé par d'autres instruments à cordes, hein, qui se rapprochent le plus de la guitare. Puis hop, on trouve des choses. De toute façon, j'ai toujours la musique, elle est partout. Hein. C'est juste des instruments. Dans un peu de musique en soi, on peut faire sonner même un truc, n'importe quoi. Ça, on peut arriver à le faire sonner.
Un paquet de chips, par exemple?
Oui, bien sûr. Écoutez ça.
Voilà. C'est quand même très mexicain comme chips. Alors, je vais revenir sur le terme musique du monde parce qu'on en parlait hier dans la radio, sur cette place des musiques du monde dans les médias notamment. Jusqu'à il y a peu, c'est-à-dire jusqu'à cette année, si on regarde l'affiche du festival, il y avait marqué World Music. Et ils ont enlevé World Music parce que, après réflexion, ils trouvent le terme très galvaudé. Alors, comme votre album, Sophia Charaille et Mathias, parce que je dis les deux, il fait le tour de pas mal de musique du monde. Pour vous, ça veut dire quoi, musique du monde?
Mais c'est vrai que c'est un peu réducteur, ça fait un peu ghetto, musique du monde, parce que c'est de la musique après tout, et la musique c'est quelque chose d'universal, donc pourquoi mettre des limites et des frontières partout? C'est d'ailleurs un peu ce qu'on nous a reproché, oh mais vraiment vous êtes inclassable, dans quel cas on va vous mettre? Bon alors c'est un peu énervant, parce que notre musique, on pourrait la rapprocher du jazz, parce que finalement dans le jazz il y a énormément de liberté, et on peut improviser et marier tous les styles, voilà.
Non, après, on en a marre la suprématie de la musique anglo-saxonne et américaine. Non mais
quoi, vous chanterez jamais en anglais alors?
Non, ça, mais justement, mais il y a d'autres musiques que la pop, quoi. Et donc à chaque fois on écoute la radio, on écoute que les trucs qui viennent des États-Unis, enfin toute la musique que j'adore. Mais il y a tellement d'émotions à vivre différemment avec toutes les musiques du monde, les musiques traditionnelles, tellement de choses à découvrir. C'est comme si on mangeait le même plat tous les jours pour la pop musique. Il y a des zones d'émotion, on pense pas qu'on va être touché par ces zones, et en fait si, il y a des choses quand on assiste à un concert de musique du monde, voilà, on découvre d'autres choses et on est touché par d'autres d'autres endroits en nous-mêmes.
Tu veux dire qu'il y a d'autres zones d'émotion dans le cerveau que celles qui sont connectées avec la pop?
Voilà. Donc ça c'est important. Puis c'est important que les gens se rendent compte que la musique du monde c'est pas un truc soit pour les initiés complètement. C'est des chansons. Même quand on demande aux gens ce qu'on fait, on fait de la chanson. Hein, il y a des couplets, des refrains, des ponts. C'est juste comment on l'habille et puis on s'inspire des autres musiques du monde. Mais c'est de la chanson.
Alors tous les deux, ça fait quand même longtemps que vous êtes soit musicien, soit chanteur ou chanteuse. Comment vous expliquez à un moment donné justement la diffusion de ce dernier album et surtout du single Picchu Picchu, notamment en France? Comment vous expliquez un tel soudain succès d'une musique du monde?
C'est déjà arrivé, mais disons que il y a quelque chose dans Picchu qui est assez fédérateur et qui est assez simple d'accès et qui permet après justement qui est un peu la porte d'entrée pour rentrer dans notre univers qui est un peu plus riche et plus élaboré. Mais on a voulu effectivement avoir quelque chose de très chaloupé, de très sensuel, qui correspondait assez bien à ce que j'avais envie de chanter. Et c'est vrai que le fait que le mot Picchu Picchu revienne, finalement pour les gens ça facilite quoi. Mais ça veut pas du tout dire que dans les prochains albums, je vais pas chanter dans d'autres langues, parce que c'est déjà ce que je fais sur scène, et que j'ai toujours voulu faire. Et on m'a toujours dit, oh là 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 là, attention, faut surtout pas chanter dans plein de langues, parce que déjà, on n'arrive pas à te classer. Mais alors après, si tu chantes, alors les gens, c'est ça, ils sont animés par la peur de tout, la peur de la différence, la peur de l'autre. C'est aussi un message, pour moi, important de dire que chanter cette musique-là, c'est pas un hasard. C'est aussi une volonté très profonde de dire que, bah, finalement, le monde est un village. J'ai vu un monsieur qui portait ça, donc merci monsieur d'être passé par là. Et qu'il n'y a pas forcément des frontières et que aussi on peut très bien voyager d'un endroit à un autre sans pour autant avoir une autorisation comme quand on franchit un pays avec un passeport, un visa. Donc en musique, Dieu merci, on est libre de chanter encore sans avoir besoin d'un visa.
Comment vous fonctionnez? Vous voyagez beaucoup ou vous écoutez beaucoup?
Un peu les deux.
Ouais. Voyage, moi j'ai beaucoup travaillé en Inde pendant 3 ans. Sophia m'a rejoint là-bas souvent. On a beaucoup été en contact avec la musique indienne. Hein. C'est très différent, que ce soit le nord de l'Inde, du sud, que ce soit musique classique ou musique folk. Donc il y a plein de musiques différentes en Inde. On a joué avec beaucoup de musiciens. D'ailleurs, il y a un musicien, un chanteur, qui chante avec Sophia sur l'album, mais sur le digital. Hein. C'est un bonus track où il y a ce duo, avec Mukhtar Ali, un grand chanteur du Rajasthan. Donc on voyage au fil de nos métiers. Moi, je fais beaucoup de musique de film aussi, donc ça me permet de voyager. Et puis surtout, on a la chance d'habiter à Paris. Pour la musique qu'on fait, c'est super, parce qu'il y a beaucoup de communautés différentes et de gens de cultures différentes. Voilà, donc ça,
les oreilles sont aussi ouvertes à Paris que ce qu'il y a comme communauté? Ou est-ce qu'on assiste à un repli? Parce que vu d'ici, hein, vu d'ici, on a l'impression que c'est plus fermé.
Moi, je trouve aussi. Les autres pays sont. Enfin, l'accueil, par exemple, je vois l'Espagne, la Belgique, tout ça. Je trouve qu'il y a quand même une réception de notre musique est plus large. Maintenant, je parle des médias, hein, parce que le public, c'est pas vrai. Le public, il est partant à fond, quoi. Mais dans les médias, c'est vrai qu'on a eu la chance de passer sur France Inter, sur FIP, donc sur des radios assez qualitatives, on va dire, entre guillemets, et que les autres, ils nous programmeront jamais. Parce que voilà, on chante en arabe. Et ça, c'est quand même très dommage, quoi. C'est-à-dire que finalement, vous êtes cloisonnés. Ce que je reproche, moi, c'est ça. C'est pas qu'on passe de la musique anglaise. Mais c'est qu'il y a un vrai cloisonnement. C'est-à-dire, ah, vous chantez pas en anglais.
Ils démentiraient. Ils diraient, non, vous pouvez pas passer pas du tout parce que je chante en arabe, mais on sait ce que c'est ça.
Et peut-être une étiquette aussi, hein. Vous chantez en arabe, mais vous faites pas de rail, quoi, quelque part.
Oui, on fait pas de rail.
Et même le rail, ça passe difficilement. Ça passe sur certaines radios très, genre radio Beurre FM, enfin, des choses comme ça. Mais c'est pas suffisant. Enfin, je veux dire, c'est pas la majorité des radios. Si vous voulez avoir une visibilité.
Tout à coup, il y a eu beaucoup moins de rails à la radio après le 11 septembre. Et ça c'est
sûr.
Ah oui,
ça
a été vérifié.
Oui.
C'est la musique arabe après le 11 septembre, c'est marrant. Il y a
mais Rachida a repris les clashs après le 11 septembre.
C'est bien.
Vous êtes retourné au Maroc
ou, souvent, oui.
Oui. Question inévitable, les révolutions arabes, vous en pensez quoi?
Mais j'en pense que c'est... Disons que c'est un déroulement logique de l'histoire. Il y a un moment donné où, effectivement, rester sous le joug d'une dictature, ça a ses limites, quoi. Peut-être que Internet a joué un rôle important, c'est sûr. parce que ces gens-là sont quand même muselés par rapport à, aux médias et tout ça. Donc ça, ça les a aidés. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe, c'est plus l'après. Parce que, bon, une révolution, c'est bien en soi. Mais après, ça se prépare, quoi. Je veux dire, une démocratie, c'est pas quelque chose qu'on peut installer comme ça, du jour au lendemain. Voilà, je pense que le roi du Maroc, pour parler de mon propre pays, parce que j'aurais du mal à parler des autres pays en n'ayant pas assez de connaissances du terrain. Le roi du Maroc est assez prudent dans le fait qu'il essaye d'amener une démocratie très, très progressive. Et je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. On peut pas, pour un pays qui a 100 ans d'histoire, rivaliser avec un pays qui en a 300. Voilà, la révolution en 1789, elle est arrivée à un moment clé. Enfin, et il y a eu des gens qui ont préparé une constitution. Donc moi, je me dis que c'est quand même quelque chose qui se prépare, et surtout vu le contexte actuel où il y a une grosse menace qui est l'intégrisme et qui est quelque chose de super flippant, de dangereux. Et où ils attendent que ça pour venir. On voit ce qui s'est passé en Iran, on voit. Enfin...
Question culturelle sur le Maroc. À Essaouira, il y a un festival qui métisse les musiques, oui, entre les Gnawa et d'autres musiques qui viennent du monde entier. Est-ce que vous êtes allé défendre, non pas à Essaouira, mais en tout cas la musique que vous faites donc métisser au Maroc?
Non, pas encore en fait, parce que d'abord l'album vient de sortir. Et on a joué à Casa au festival de jazz, parce que effectivement, je crois qu'il nous assimile plus à du jazz. Les Gnawa, c'est un festival qui a pris une ampleur pas possible
et qui est presque surfait d'ailleurs.
Oui, aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour moi, il est un peu fini ce festival. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai.
Non, je pensais à cette niche-là de métissage assez difficile dans les pays du Maghreb de la musique. C'est vrai, entre la musique des Balkans et ce que en tout cas j'ai ressenti dans votre album. Ce qu'on va écouter, parce qu'on va écouter un extrait du live que vous avez joué côté jardin, puisque vous nous autorisez l'enregistrement et la diffusion pour ce week-end. Le métissage entre cette musique des Balkans, cette musique et puis cette langue arabe, elle existe pas beaucoup.
Non.
Et je voulais savoir comment ça réagissait là-bas.
Mais ça réagit super. Hein. Après, les gens sont sensibles à l'énergie qui se dégage, à l'originalité des textes qui sont mis sur ce type de musique et qui n'est pas habituel, et aussi au fait qu'on utilise le marocain et non pas la langue littéraire, et que, enfin moi depuis que je suis née au Maroc, la musique arabe m'a souvent saoulée, j'aurais pas le dire, mais c'est vrai, je veux dire c'est de la sous-soupe de variété égyptienne, quoi. Bien sûr on a eu des stars comme Abdel Wahab, comme Abdel Halim Hafez, enfin des gens comme ça, mais quand même la grande majorité de la production musicale artistique, c'est de la variétoche, quoi. Moi ça me fait pas vibrer, quoi. Et en plus dans une langue qui est l'égyptien, le dialecte égyptien. Donc je suis désolée, on a une identité, on est au Maroc, on n'est pas en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on va aller chanter dans une langue qui est pas la nôtre? Et ça c'est un peu le problème, je veux dire, de l'amalgame qui est fait sur les pays arabes. On dit les pays arabes, mais je suis désolée, c'est pas les pays arabes, c'est le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Chacun a son histoire et chacun a son identité et son rien à voir. À part, soi-disant, une langue commune, littéraire, et finalement, si vous interrogez... Oui, la religion, mais en même, les religions, ils pratiquent chacun leur religion, c'est pas le même islam nulle part.
Pour le Maroc particulièrement, d'ailleurs.
Bah oui, non, c'est très dommage de faire cet amalgame, et c'est ce que les intégristes essayent de faire, de faire que... Mais au fond, on n'a rien à voir... Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit défendre une identité nationale... Et les particularités de cette culture, de chacun sa culture, ce qui est quand même normal.
Chacun sa culture, chacun sa particularité pour mieux la mélanger, alors.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que il faut prendre la tradition pour l'amener vers une modernité, mais ne pas se défaire de ses racines, ça veut pas dire qu'on...
Ça, c'est un problème qu'on retrouve dans tous les pays, on va dire, en voie de développement, hein, ou tous les pays...
Du sud.
Ouais, les pays pauvres, en Inde, c'est que, surtout en Chine, hein, mais à cause de Mao, les gens, le capitalisme arrive partout, c'est l'argent...
Le libéralisme.
L'argent devient... le premier souci et toute la culture qui fait la richesse de chaque pays est en train de un petit peu de partir. Et tout le monde est en train de devenir une espèce de, d'Américain, voilà, consommateur. Et c'est flippant, c'est flippant. Alors moi, j'essaie tout ce que je fais de montrer la culture, d'essayer de garder, de dire au peuple, de dire à tous les gens qui travaillent de vraiment faire attention à ça. De pas oublier toute l'Afrique, les griots. Maintenant, les griots, ils sont mal vus. Avant, les griots, ceux qui transmettaient tout, il y avait tellement de choses à transmettre. Tout ça, c'est en train de partir. Les jeunes n'en ont plus rien à faire. À part des petites élites, heureusement qu'il y en reste. Je suis obligé de dire élite, parce que moi, c'est une élite. Les gens qui disent, putain, on vient d'où? Qu'est-ce qu'on, toute notre richesse, il faut pas la laisser partir, quoi. Sinon, là, ça va devenir terrible, la terre. D'où la montée après de l'islamisme. C'est une espèce de course qui se fait comme ça. Arrive avec des valeurs en disant que c'est les vraies valeurs, avec une espèce d'intolérance incroyable. Mais bon, c'est, voilà, on assiste à une espèce de course et malheureusement, on a l'impression que le bateau est en train de couler et on essaye tous d'écoper économiquement, mais le bateau est en train de couler. On a le sentiment qu'il n'y aura pas grand chose à faire.
De l'optimisme dans les studios d'Esperanza en plus.
Non, je suis pas d'accord.
Vous n'êtes pas d'accord?
Non. Non, c'est sûr que dans les civilisations, il y a des choses qui montent, puis il y a des déclins, et puis voilà. Mais bon, après, je pense qu'on arrive à...
Elle résonne en histoire, d'accord, sur l'histoire de l'humanité.
Bah oui.
On est un petit cycle, hein, je pense que d'ici 2 millions d'années...
Mais bon, je m'arrête pas à la vision de ma simple existence,
bien.
Heureusement.
Ça, c'est le début de la spiritualité. Non, c'est vrai. Ça.
Je voudrais qu'on parle de vos musiciens sur scène... Mathias, d'abord, comment vous faites pour choisir à un moment donné l'instrument, puisque vous en pratiquez plusieurs, mais c'est la guitare d'avant tout.
Oui.
Donc c'est pour ça que sur scène, c'est la guitare.
Voilà, la guitare, puis on a envie donc l'influence de l'accordéon bulgare. Souvent, il y a des gens qui disent « Oh, l'accordéon, c'est ringard, etc. » Mais oui, mais l'accordéon tzigane bulgare n'a rien à voir et dégage pas la même émotion qu'un accordéon musette, que moi j'adore, hein, mais c'est souvent cliché. Donc là, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un mec qui a étudié en Bulgarie qui est avec tous les gitans et il redonne ça sur scène. Il y a un violoniste superbe, s'appelle Yann Suri, qui en joue depuis 15 ans maintenant. Batteur et contrebasse. Voilà, on est.
Petite formation, en fait.
Ouais,
quelque part.
Petite et grande pour aujourd'hui, quand tu vois le système économique aujourd'hui pour les musiciens, c'est de pire en pire. Donc là, déjà, on est 6 sur scène, ce qui est quand même beaucoup aujourd'hui, à l'heure actuelle. Pour quelqu'un en voie de développement, comme on dit pour Sophia.
Ah oui, carrément.
Ah oui, en voie de développement, Sophia.
Ils appellent ça groupe en développement.
Oui. C'est le festival d'ailleurs, Esperanza est particulièrement sensible au groupe en développement. Je ne sais pas si vous avez vu.
Bah oui, c'est ça.
Alors parfois, le développement double le festival.
Oui.
C'est le cas de Raphaël Gualazzi qui est en train de jouer. Il y a des musiques comme ça que vous aimeriez encore explorer, que vous n'avez pas encore explorées?
Je crois que c'est un chemin, c'est pas des musiques qu'on a envie d'explorer, je crois que ça se construit au fur et à mesure des rencontres, c'est un
naturel.
Peu le hasard de la vie qui fait que tout d'un coup t'as envie de faire un duo avec un tel, t'as envie d'intégrer une partie de son univers, ouais, voilà.
C'est naturellement.
Je crois que... Puis bon, quand on fait un chemin dans la musique, on a des envies qui arrivent au fur et à mesure du chemin aussi, de ce qu'on découvre de soi, parce que finalement c'est aussi un chemin vers soi-même et vers les autres. Mais c'est... voilà.
On va se quitter avec un extrait de votre live tout à l'heure.
Okay.
Je vous avoue, je n'ai pas le titre en tête.
C'est pas
mais
grave.
Je pense que vous allez pouvoir nous le dire dès les premières notes que vous allez entendre. Et donc, c'est Casa.
Qui décide d'aller en ville, Casablanca? Vous êtes prêts pour aller à Casa? Ouais, on va tous à Casa!
Casa. Casa.
شك يحمق تعالي جلسي معايا مرتاحة مرتاحة لقيت راسي مور البرخ ملون سربي كذا وعرا
C'est cut, hein. On remercie beaucoup Fred qui a dérushé ce petit live de Sophia Charaï. C'était Casa, c'était tout à l'heure en direct du Côté Court.